Avec ce qu'on a sous les yeux en studio, on va faire un petit tour, Laurent Tixador. Est-ce que vous avez repéré des choses à récupérer ou à ramasser qui pourraient vous servir ?
Mais en fait, je vois que là, on est entouré par des instruments, par du matériel son et tout ça. Et en cherchant dans tous les coins, j'aurais adoré trouver une vieille platine vinyle. Et tout simplement parce que là, depuis un mois ou deux, j'ai pris l'habitude de fabriquer des platines vinyle moi-même avec des machines à laver, avec des caddies, etc. Enfin, des systèmes en fait de lecture de disques. Et ce petit élément en fait qui est le bras de la platine, ça, je suis obligé de récupérer sur des vraies platines, quoi. Ouais.
Et ça marche avec le caddie ?
Bah, avec la machine à laver, en fait, ça marche parce que on a un moteur, le tambour de la machine à laver, une courroie, donc c'est à peu près la même chose. Et si on y branche un variateur de lampe halogène, on peut faire tourner le moteur à la vitesse qu'on veut. Donc on peut lire le disque à la vitesse qu'on veut. Et avec le caddie, évidemment, il faut le faire tourner à la main. Donc c'est aussi une question de vitesse, mais qui est moins constante. Ouais.
Lionel Sabaté, vous avez repéré quelque chose dans le studio ?
Oui, alors c'est juste dans l'entrée du studio, il y a une petite planche qui mesure à peu près peut-être 1 mètre de long et qui est assez fine, peut-être 20 cm, et qui est surtout impactée de petits trous dont j'ignore la provenance, mais qui sont intrigants et qui sont assez beaux. Et du coup, cette planche m'a attiré par l'espèce de fragilité qu'elle a, et puis aussi l'histoire mystérieuse qu'il y a derrière ces petits trous. Et donc voilà, il y a ça, et puis il y a effectivement, moi, mais ça c'est un peu dans tous les endroits où je vais, j'aimerais beaucoup récupérer la poussière qu'on ne voit pas, parce que le studio paraît propre, mais c'est sûr que si on repassait l'aspirateur, on retrouverait de la poussière, qui seraient les traces donc de nous en train de faire cette émission. Et donc moi, c'est toujours un matériau qui, un peu partout où je vais, me fascine et m'attire. Donc voilà, il y aurait ces deux matériaux en fait, qui m'intéresseraient.
Barbara Carlotti, vous avez déjà transformé une machine à laver en lecteur de disques ?
Non, absolument pas. Mais je me sers des platines pour faire des dream machines, faire des séances de dream machines. Donc j'ai utilisé les platines pour avoir des visions plutôt qu'écouter du son. Mais si je prenais quelque chose dans le studio, moi, je prendrais le Steinway qui est derrière moi.
Carrément.
Bah oui, tant qu'à faire. Il est magnifique. Et
Lionel Sabaté a choisi une planche et vous avez pris le piano.
Bah oui, j'ai absolument pas les moyens de me payer ce genre de piano. Et c'est un très beau piano qui a une sonorité fabuleuse. Il est très souple. Non, pas pour le casser, mais pour apprendre à vraiment bien jouer du piano. Je pense qu'il faut un très bon instrument.
Laurent Tixador, l'errance, c'est toujours un moment important avant de créer, ou la marche ?
Ben oui, du fait que j'ai pas d'atelier et que je travaille toujours en extérieur, en fait. L'extérieur, c'est mon atelier, en fait, c'est ma façon de travailler. Et quand je suis quelque part, en dehors de chez moi, c'est le moment où je travaille, en fait, tout simplement. Et je peux me perdre, découvrir des opportunités, et c'est ça qui m'intéresse, justement, dans cette errance. C'est de me mettre à la portée d'un matériau avec lequel je pourrais collaborer et que j'aurais pas fait dans un atelier plus classique.
Dans la région parisienne, j'ai une petite famille et comme tout le monde, je voulais la loger. Dans mon fonctionnement, c'était hors de question que je m'endette toute une vie pour avoir un petit pavillon à une heure de mon boulot, tout simplement. Du coup, j'ai cherché différentes alternatives. À un moment, je me suis arrêté sur un bateau. Les prix d'immobilier étaient au plus haut, mais aussi les prix des matières premières, donc des métaux. Donc, la moindre péniche dans un super mauvais état était un prix qui permettait pas de la rénover décemment, en fait, sauf encore une fois s'endetter toute une vie. Je me suis lancé dans les calculs pour avoir une idée de la quantité de bois qu'il me faudrait. Et petit à petit, voilà, c'est parti. Ça qu'on m'a reproché à des moments. Tu bricoles un bâton. Ouais, t'inquiète, la photo.
Il est 23h et est-ce qu'on vit à dimension humaine ? Quand on dit à dimension humaine, c'est souvent pour évoquer ce qui serait souhaitable, ce qui n'est pas encore ou plus le cas. La ville, nos bâtiments, le travail, on a oublié les vraies échelles. À dimension humaine, ce serait le paradis perdu ou à venir, les choses sont là et ne se transforment plus. Lionel Sabaté, lui, a construit une demeure qui va mourir parce qu'elle est éphémère. Elle est à ciel ouvert, construite avec du ciment qui donne la forme à des visages. Ça a été une épreuve, 3 tonnes de béton et 14 jours pour la faire exister. La demeure est à la fois en ruine et en construction. Mais qui est capable de repartir à zéro aujourd'hui, de construire sa maison ? Est-ce qu'on est dépendant d'une adresse postale ? Si le réel se compte en mètres carrés, comment on l'habite ? Et surtout, est-ce qu'on peut le transformer ? Laurent Tixador, lui, marche et ramasse ce qu'il trouve. À terre, sur la plage, récupère, sait que tout va pouvoir se transformer. Dans une forteresse du XIIIe siècle, il remarque un cours d'eau, il crée une centrale hydroélectrique pour que l'exposition ait sa propre électricité. Il parasite l'économie en n'achetant rien, en créant tout, tout seul. Si la maison est une machine à habiter, comme le disait Le Corbusier, Barbara Carlotti a créé une machine à rêver. Elle se reconnecte à la dimension humaine. La dimension qui permet de rêver à faire autrement, qui entre ensuite en action, qui se crée sa maison. Notre vie matérielle est bien plus intérieure qu'on ne le croit. Ce n'est pas un mode de vie, mais un moment de vie. La vie matérielle attend donc de coller à la vie intérieure et de recoller à la dimension humaine. Il y aura donc Laurent Tixador pour son exposition « La Centrale », c'est jusqu'au 20 mai à la Cuisine, centre d'art et de design culinaire de Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne. Il y aura Lionel Sabaté qui propose à la Maison Rouge à Paris jusqu'au 20 mai une demeure éphémère dans le patio, mais aussi l'exposition « La morsure de l'air » jusqu'au 19 mai à la galerie Cesson et Bénétière. À la musique, il y aura Barbara Carlotti. Son nouvel album s'appelle Magnétique, c'est le 5e. Elle sera en concert le 4 mai à Saint-Jean-de-Vedat. C'est une vie d'artiste sur France Culture. Ça commence avec l'utopie et la voix de Rudy Ricciotti.
Vous savez, je crois pas du tout aux utopies. Je crois que la notion d'utopie inclut même le renoncement à un futur. Voilà. Je crois que c'est. Je pense que le vrai engagement romantique, c'est de transformer le réel.
Mais comment peut-on le faire ?
Ah, il faut combattre. C'est un combat de tous les jours. C'est quelque chose d'assez psychopathe. C'est la notion de passage à l'acte. C'est la notion de résistance.
Et en étant architecte, on peut transformer le réel.
Mais c'est notre destin, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir, bien sûr. C'est notre éthique. De transformer le réel, de vérifier par quelles conditions on y arrive. Quand je parlais de la notion de mémoire du travail territorialisé, c'est une des conditions politiques par lesquelles nous redonnerons sens à notre métier.
Laurent Tixador, est-ce que l'utopie et la transformation du réel, ça s'oppose ?
Je sais pas tellement. En fait, je suis pas un grand fan de cette idée d'abandonner l'utopie. C'est quand même quelque chose qui prépare le futur et qui le fait rentrer dans les mœurs. Juste pour ça.
Et ça peut être présent à l'intérieur de l'action, ou du passage à l'acte, justement, de la construction.
Bah oui, bien sûr, bien entendu. Et en fait, l'utopie, c'est tout simplement un espoir, quoi, ouais. Comme chaque fois que j'entame un nouveau chantier, de nouveaux travaux, en fait, oui, c'est une utopie parce que ce sont des choses que je sais pas faire, comme cette centrale, comme d'autres pièces. Et voilà, donc je suis plutôt utopiste. Ouais.
Lionel Sabaté, c'était une utopie, la demeure.
Je ne sais pas si c'était une utopie. En tout cas, c'était un désir profond, qui est né en fait du. En fait, je suis d'abord tombé amoureux de ce mot, moi, demeure, parce que demeure, c'est à la fois une durée et un espace. Et donc, c'est de l'espace et du temps. Et moi, c'est quelque chose, voilà, c'est nos trésors. Et du coup, j'ai, pour la première fois, réalisé quelque chose qui n'est pas vivant, puisqu'une demeure, a priori, n'est pas vivant. Et voilà, c'était un désir, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'utopie, puisque je ne saurais pas d'ailleurs quelle est la définition exacte d'une utopie, mais c'est un désir en tout cas au départ. Un désir, et oui, j'ai dit le mot amoureux, il y a quelque chose d'une envie presque amoureuse liée à la rencontre avec ce mot. Voilà.
Mais il est particulier ce mot demeure, parce que justement cette maison, cette demeure, elle ne va pas rester.
Oui.
Elle est éphémère.
Donc ça, c'était une des... contrainte peut-être du lieu que j'ai choisi de me donner et qui correspondait aussi à ce que je trouvais de beau dans ce mot demeure, puisque rien ne demeure vraiment, tout se transforme, et donc je voulais vraiment jouer ce jeu-là et proposer donc une construction qui effectivement est éphémère et que pourtant j'ai construite de manière la plus solide et possible. Donc avec effectivement du béton, du fer à béton, donc c'est quelque chose de très solide et qui paradoxalement va être détruit au bout de 3 mois. Donc il y avait aussi cette notion de durée qui était particulière dans cette proposition et qui est un peu en contre-pied avec ce que je propose d'habitude, puisque j'utilise plutôt des matériaux qui évoquent des choses éphémères et que j'essaie de rendre pérennes d'habitude.
Comme la poussière dont
vous parliez. De la poussière, il peut y avoir des rognures d'ongles, enfin bon, toute une série de matériaux comme ça qui sont souvent des déchets liés à l'idée d'éphémère. Et là, c'était un peu le contre-pied, puisque je réalise quelque chose d'éphémère avec des matériaux habituellement faits pour durer.
Il y a quelque chose que vous avez en commun avec... Laurent Tixador, c'est l'épreuve physique de la fabrication pour cette demeure en particulier, Lionel Sabaté, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 14 jours et c'était une vraie épreuve physique parce que le béton, le ciment, c'est pas rien.
Ouais.
Et il y a aussi une urgence à créer avec cette matière-là parce que qui va se figer.
Oui, il y avait ça, puis il y avait aussi les données météorologiques qui ont été assez... on a commencé à construire cette demeure le premier jour de neige là et le au début de la période de froid là à Paris.
Parce que c'est dans le patio de la Maison Rouge, donc
oui,
à ciel ouvert.
À ciel ouvert, donc voilà, on était sur un sol vert glacé, donc ce qui a rajouté une difficulté, mais finalement moi c'était une des choses qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'était d'être dans ces conditions comme ça d'épreuves physiques et de challenge comme ça, d'essayer d'arriver à faire une construction qui me plaise le plus possible, avec un temps très court, avec un ciment aussi qui séchait très rapidement. J'ai pris un ciment à prise rapide pour être dans quelque chose de très physique où j'ai peu le temps de réfléchir en fait et où je dois tout de suite placer mon ciment avant qu'il ne prenne. Et voilà, donc c'était aussi un moyen comme ça de quitter la réflexion, qui est souvent le cas quand on fait une construction de type une maison, quelque chose comme ça, c'est souvent très préétabli, il y a souvent des plans, des choses comme ça, et moi j'ai fait vraiment le contre-pied de ça, où je suis parti dans un truc très physique, en fait, sans trop savoir à quoi allait ressembler la demeure finale, ni sans avoir une idée de la quantité de béton que j'allais pouvoir utiliser, de la hauteur, de la taille, et... Voilà, c'était une sorte de course comme ça qui était très grisante. J'ai adoré faire ça et j'ai aussi adoré l'épuisement physique que ça a impliqué.
Et dans cette urgence-là, est-ce que vous saviez que des visages allaient apparaître ?
C'était la seule chose qui était prévue au départ.
Quand on est face à la demeure, on voit ce mur, donc c'est à ciel ouvert et c'est encore en construction. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Mais par contre, il y a un mur face à nous où on a l'impression de voir tous ces visages.
Effectivement. Alors ça, c'était le seul mur de la demeure qui était prévu. Je savais aussi que c'était un mur qui allait être très long à construire, puisqu'effectivement, c'est comme un empilement de visages. Et En fait, c'est pendant la confection de ces visages de béton que je me venais les idées et les désirs des autres murs, en fait. Donc pour moi, c'était le mur humain, quoi, qui était comme un empilement de strates de type archéologique, quoi, avec différentes. On pourrait imaginer aussi que le mur continue sous la terre et qu'il y a des traces plus anciennes encore. Et pour moi, c'était comme un mur du temps avec ces visages comme ça qui s'empilent. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai finalement été pris j'ai pu me rendre compte que j'avais ce désir d'aller beaucoup plus haut que ce que j'avais prévu. Enfin, j'étais vraiment dans un truc de constructeur que j'ignorais chez moi et où je pense que j'aurais pu continuer à construire cette demeure pendant peut-être 20 ans. J'ai vraiment ressenti un immense plaisir, en fait, à bâtir comme ça quelque chose qui me guidait, en fait, parce que je savais pas trop la forme que ça allait prendre au final. Et voilà, c'était très grisant et j'ai notamment les murs les plus hauts arrivent peut-être à une quinzaine ou une vingtaine de mètres. Et moi, j'ai énormément le vertige, mais là, dans le feu de l'action, quoi, j'ai réussi à grimper sur ces murs et à me retrouver à confectionner des têtes à 10 mètres de haut.
Laurent Tixador, vous avez déjà construit une demeure ?
Et en fait, j'ai déjà construit énormément de demeures. Et du fait que je sois un artiste qui vient de la marche, en fait, j'ai travaillé très rapidement en fait sur un habitat qui soit un habitat assez opportuniste, où on prend des matériaux tout autour. Et puis voilà, on essaie d'assembler des matériaux, de connaître ces matériaux, et puis de faire évoluer son habitat. Et justement, je suis pas tout à fait d'accord avec Lionel sur le fait qu'un habitat soit pas vivant, parce que tant qu'on l'habite et tant qu'on le fait évoluer, en fait, c'est un habitat qui est vivant jusqu'à son stade parfait. Et en fait, la cabane, le petit habitat de transition, si on reste une semaine dedans, tous les matins, on va modifier quelque chose. Et voilà, par ce fait, en fait, il reste en vie. Et soit on reste dedans jusqu'au moment où il sera absolument magnifique, où tous les éléments seront bien positionnés, tous les matériaux seront les bons matériaux, ou alors on l'abandonne en cours. Et puis voilà, quoi. Ouais.
Et parce que vous avez habité vos demeures ?
Toujours. Oui, toujours. Et...
C'est la différence avec celle de Lionel Sabaté.
Et en fait, j'ai jamais eu de raison de faire une demeure pour ne pas l'habiter. Et chaque demeure, c'est une expérience aussi. Enfin, c'est une expérience de vie, c'est une expérience de construction, c'est une expérience de nouveaux matériaux. Et puis, c'est aussi pour le plaisir de pouvoir abandonner quelque chose qui a été fait sur place avec des matériaux d'un environnement très proche et de savoir que cette demeure peut s'écrouler, disparaître, revenir à la nature, parce qu'en fait j'apporte rien, en fait j'y vais les mains dans les poches et je construis. Donc si c'est du bois, je fabrique des chevilles, mais j'utilise pas de vis, j'utilise pas de ficelle. Si c'est en périurbain, c'est des éléments qui traînent donc je les laisse là. Et ainsi de suite.
Ça existe encore, les projets de ville idéale, de cité idéale ?
Ça a tellement produit de monstres que... J'ai dit monstre, j'ai pas fait exprès. Ça a dit qu'on fait attention, quoi. Aujourd'hui, on fait attention.
C'était quoi, par exemple ?
Il y a des plans... Plan voisin de Le Corbusier, c'est massacre de Paris, système de gratte-ciel dit cartésien. On garde une petite porte Saint-Denis, une petite porte Saint-Martin, on rase tout. On fait gaffe depuis, quand même. Donc, moi je suis pour qu'on en refasse des projets de cité idéale. Ça a toujours servi. Les cités jardins, par exemple, qui sont des bonnes façons de faire la ville, sont le produit des utopies du 19e siècle. Les Anglais, par exemple. Donc, moi, je serais assez pour retenter des rêveries utopiques sur la ville. Mais la plus belle utopie de la ville, c'est quoi ? C'est qu'elle soit un lieu de mémoire, de sédiments, de collage. C'est qu'elle soit un lieu profusionnel. Donc, c'est ça la grande découverte sur la ville. Donc, cette utopie de l'accumulation, du frottement, elle est un peu réalisée. Les endroits où il est bien réalisé. New York, par exemple, justement. C'est une ville utopique, New York. Là, c'est un point de vue. Elle a un topos, pourtant. C'est un sacré topos.
Est-ce que ça veut dire quelque chose, une ville à dimension humaine?
C'est pas tout à fait l'acception qu'on donne à ce terme vulgairement, parce que là, on imagine une ville de province un peu triste, un peu chiante, proprette, rien ne dépasse, avec des petites toitures. On peut garer facilement sa voiture, cultiver son jardin. La vraie ville à dimension humaine, c'est une ville complexe, pleine de secrets.
C'était la voix de Roland Castro. Lionel Sabaté, vous avez donné une deuxième vie à des choses de la ville, comme justement la poussière, des choses qui sont normalement finies, des choses qui sont des déchets, et vous leur donnez une deuxième vie en les transformant.
Oui, on peut dire ça. Après, je leur donne une nouvelle forme, en fait, surtout. Parce que c'est pas forcément une nouvelle vie, mais c'est une nouvelle manière d'exister pour eux sous une nouvelle forme. Donc, lié à la ville, j'ai surtout le projet que j'avais réalisé. Enfin, j'avais pendant plusieurs années balayé la station de métro Châtelet-Léal, qui est l'endroit du monde où il y a le plus de personnes qui passent en une journée. À l'heure actuelle, il y a 1 million de personnes par jour qui passent dans cet endroit. Paris, c'est aussi la ville la plus touristique du monde, donc pour moi, cette poussière qui est liée au passage de tous ces gens, elle est une sorte de trésor, parce qu'elle est, c'est la poussière universelle pour moi, puisque c'est voilà, des gens de plein d'endroits différents, tous rassemblés, et effectivement, ce matériau comme ça, qui est un peu dégoûtant, qui est un peu voilà, qui est rejeté, qui est balayé, qu'on essaye d'enlever à notre vue, j'ai choisi d'essayer de lui faire prendre une nouvelle forme et de le montrer. Alors j'ai réalisé une meute de loups grandeur nature qui sont donc voilà des loups en mouton de poussière de la station de métro Châtelet. Et effectivement, après ils ont pris une nouvelle existence puisque ils ont été montrés dans plusieurs endroits et puis maintenant ils sont dans plusieurs pays même. Donc je suis assez très heureux de voir que cette poussière qui était la trace de nos passages il y a quelques années dans la station de métro, se retrouve comme ça à voyager sous forme de loup et à être regardé. Et voilà. Et puis moi, j'aimais beaucoup l'idée aussi que ces loups soient conservés parce que cette poussière, finalement, elle commence à dater puisque les premiers loups ont pratiquement 10 ans. Donc c'est les traces d'une humanité qui a déjà changé, quoi. Je pense que des personnes, des cheveux qu'on trouverait dans cette poussière, des personnes qui ont disparu depuis, il y a des gens qui ont changé, quoi. Et voilà, je trouvais ça beau pour moi d'avoir cette trace de cette période sous cette forme, quoi, sous la forme de poussière qui. D'ailleurs, là, je viens de voir sur le cache-micro, en fait, qui agit comme un fil, il y a une petite poussière très fine qui est très très belle. Et qui m'intéresserait là pour le coup beaucoup parce que c'est aussi le souffle des gens qui se sont exprimés dans l'émission qui comme ça captent la poussière alentour. Donc je trouve que c'est très beau quoi en fait cette poussière sur ce petit disque là que j'ai en face de moi.
Est-ce que vous continuez à la collecter justement?
Oui, ça m'arrive. Alors pas dans des telles quantités que j'ai pu le faire pour à l'époque où je réalisais cette meute de loup, mais maintenant en fait je réalise beaucoup de dessins, de travaux sur papier. Ce sont souvent des corps souvent féminins qui sont où j'utilise très peu de poussière là maintenant pour le coup puisque c'est en fait les cheveux d'inconnus qui sont dans les moutons de poussière que je récolte qui deviennent les lignes de corps comme ça de corps souvent féminins et souvent désirables pour moi. Donc il y a un truc lié au désir aussi et que j'aimais bien parce que Oui, c'est ce matériau comme ça en disparition, tout ça qui redevient quelque chose en dialogue avec quelque chose qui a à voir avec le désir. Et voilà, pour en revenir à ce que vous disiez au début, oui, c'est peut-être une manière de redonner vie, le fait qu'il y ait désir et le fait qu'il y ait forme. Et donc du coup, ça fait qu'on a un autre échange avec ce matériau. Mais alors, je continue à balayer, mais ce qui s'est passé depuis l'époque où j'avais démarré, c'est que la station a été reconfigurée, donc je trouve beaucoup moins de poussière qu'à l'époque, parce que l'aération doit être beaucoup mieux conçue qu'il y a quelques années. Et voilà, du coup, c'est plus fastidieux que ça ne le fut il y a quelques années.
Et vous parliez de corps féminin, souvent ça se transforme soit en corps, en créature, en tout cas, vous parliez des loups, et je pense à la chouette,
oui,
Athéna.
Oui, alors ça c'est une autre pièce qu'elle a réalisée plutôt avec des ongles et avec des peaux mortes, qui sont une autre trace de notre passage. Donc Chevêche Athéna, c'est une pièce que j'avais réalisée, oui, au même moment que je faisais les loups, il y a peut-être une dizaine d'années, et qui, en fait, c'est un matériau, je pensais ne pas le réutiliser, mais finalement, j'ai réutilisé des peaux mortes. J'ai en fait réalisé des forêts d'arbres morts qui sont refleuris avec des peaux mortes. Donc les peaux mortes, voilà, ce que j'aime beaucoup avec la peau morte, c'est que c'est un matériau qui est un peu le déchet par excellence, c'est-à-dire ça nous dégoûte, on partage tous une espèce d'aversion comme ça pour le petit bout de peau morte qui serait... Alors qu'en fait, c'est pas si sale que ça, concrètement, et que en fait, même plastiquement, c'est plutôt joli, c'est plutôt translucide et blanc. Et donc ça a un côté plastique assez beau, avec les petites traces de traces d'empreintes digitales, comme ça. Et voilà, donc j'ai choisi d'en faire des pétales, donc j'ai récupéré comme ça plein de peaux mortes chez des podologues à Paris. Donc j'aimais bien aussi cette idée que ça soit le résultat d'un soin, que ce soit les pieds en plus, qu'il soit le contact avec le sol comme ça dans les villes, qui deviennent pétales de fleurs. Pour moi, je trouvais ça beau et que c'est et la partie soin apportée par les podologues m'intéressait beaucoup aussi, le fait que ce soit des pieds qui sont soignés et qui deviennent donc des pétales. Alors les arbres morts ont souvent une signification. Bah, par exemple, une forêt, ce sont trois oliviers qui étaient morts pendant l'hiver 54, qui était le plus froid du siècle dernier, et où plein d'oliviers sont morts à cette période, et que j'ai pu la chance de récupérer et de donner une sorte de nouveau printemps, voilà, plus de 60 ans après.
Barbara Carlotti, vous ne regarderez plus la poussière comme avant, après avoir entendu Lionel Sabaté.
Oui, absolument.
Et elle ressemblait à quoi, votre demeure, Barbara Carlotti, celle où vous avez enregistré vos rêves pendant un certain moment?
Ah, c'était une petite maison de garde qu'on m'avait prêtée à Begmeil, en Bretagne. Toute petite maison avec juste une pièce principale avec une cheminée. Parce que parfois, au mois d'août, en Bretagne, il fait très froid. Et puis une chambre, et voilà, et c'était simplement ça. Ouais.
Et c'était propice
aux
rêves.
Et par contre, j'étais à côté de la mer, vraiment très proche. J'étais très isolée, j'étais vraiment dans le bourg, donc il y avait peu de passages de voitures, j'étais toute proche de la mer. Je pense que la mer est propice au rêve, ouais. L'océan est propice au rêve. L'influence de la lune aussi. La nature, les apparats d'Amazonie, ils disent que pour bien rêver, il faut être à côté d'un cours d'eau. Et puis, il ne faut pas être dans un endroit où il y a trop de passages d'êtres humains. C'est un peu comme ce que vous disiez sur on laisse des résidus de nous-mêmes quelque part. Les rêves sont des... Enfin, les présences, en fait, peuvent brouiller nos visions nocturnes. Et donc, il faut aller dans des endroits un peu isolés, proches de l'eau, où c'est plus fluide, effectivement... où c'est presque nettoyer des trop grandes présences qu'il peut y avoir. Par exemple, on peut pas, pour les apparats, on peut pas rêver dans un hôtel. Il y a eu trop de passages et on est envahi de fantômes, en fait. Donc si on veut vraiment être bien avec ses rêves, il faut rêver près de la mer.
Ça aurait été différent si vous étiez resté dans la ville, vous pensez ?
Je pense que ça aurait été différent, oui, bien sûr. Il y a une frénésie, en tout cas, qui apporte pas le même genre de rêve. Et puis là, il fallait que je puisse à la fois me réveiller toutes les 90 minutes et à la fois
pour
me reposer
rêves.
Quand même. Donc, il fallait que je sois dans un endroit un peu calme. Et puis moi, j'ai une affection particulière pour les environnements naturels. Je suis en partie corse par mon père et j'ai un attachement très fort pour la nature. Je pense qu'il est lié vraiment à ce territoire un peu sauvage qu'est la Corse. Donc j'ai besoin, en tout cas pour me concentrer et pour me retrouver, j'ai besoin de m'isoler dans la nature. Ouais.
Et toutes les 90 minutes, on se réveille naturellement ou il
Non,
faut
absolument
mettre un réveil.
Pas, il faut mettre un réveil. En s'entraînant, au bout d'un moment, on y arrive. On éduque son cerveau et on y arrive. Et moi, j'avais quand même tendance à finalement me réveiller. Enfin, je fais des micro-réveils. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui se souvient beaucoup de ses rêves parce que je fais des micro-réveils la nuit. Donc parfois je m'en souviens, enfin je me réveille pas vraiment, mais je me réveille quand même régulièrement, c'est pour ça que je me souviens de mes rêves. Donc j'avais déjà ça en moi. Après, il faut s'éduquer à se dire, quand on s'endort, on dort une heure à peu près, une heure et demie, et en plein milieu du sommeil paradoxal ou à la fin du sommeil paradoxal, on essaye de se réveiller pour capter le plus de souvenirs de rêves possible.
Et comment on collecte, on s'enregistre ou on note ou...
Ouais, tout. Je m'enregistrais beaucoup sur mon iPhone, ce qui est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire. L'idéal, ce serait pas de ne pas allumer d'écran parce qu'en général, la lumière des écrans, elle vient nous sortir vraiment des souvenirs de rêve. C'est pas du tout conseillé si on veut se souvenir de ses rêves. Donc j'enregistrais, je notais sur un papier dans le noir, dans des carnets. Et puis, globalement, c'était ça, quoi. Où je dessinais, je faisais des dessins de temps en temps.
Et quand on réécoute, vous avez la même voix que celle avec laquelle vous parlez maintenant, ou vous avez la voix de...
Ah non, j'ai la voix du sommeil. J'ai une toute petite voix toute fermée. La voix du sommeil, elle est un petit peu comme ça, quoi. Je pense que, voilà, on est tout ankylosé. Le sommeil paradoxal, il y a une glande qui coupe l'accès au corps, donc aucune fonction corporelle normalement, le corps est réellement éteint, on est complètement atone, donc, et on est même presque paralysé en fait, donc effectivement on n'a absolument pas, quand on sort de cet état là on n'est pas dans un état normal, on n'a pas ce genre de voix.
Et qu'est-ce que ça a ouvert dans l'écriture de la chanson de reconnecter directement la chanson au rêve?
Moi, ça m'a ouvert un monde, surtout que de pensées que j'avais pas choisies, mais qui venaient quand même de moi. Donc, qu'est-ce qui me traverse? Comment ça me traverse? Qu'est-ce que je capte du monde et comment ça me traverse, mais que consciemment je n'essaye pas d'influencer pour donner du sens. Et en fait, pour moi, c'était un acte de liberté hyper fort. Parce que je me suis obligée à me dire, bon, ça vient de ton rêve, cette mélodie, elle vient de ton rêve, ces paroles, ou cette narration, cette histoire vient de ton rêve, mais t'es obligée de faire quelque chose avec et tu décides pas que c'est pas ça qu'il faut, enfin, tu mets pas de contrôle autour de ça. Comme l'ont fait les surréalistes avec l'écriture automatique, avec les rêves aussi, avec les paroles à la lisière du sommeil, enfin, toutes ces méthodes-là, elles ont été expérimentées quand même, avant par beaucoup d'artistes, donc c'était pas nouveau, mais moi j'avais besoin, je pense, comme un acte libérateur et puis aussi comme simplement une méthode de travail différente qui amenait beaucoup plus de fantaisie, de fantasmagorie, enfin de tout ce qui se déploie la nuit et qui nous paraît étrange, mais qui est en fait, je pense, une façon de recevoir le monde un peu plus vaste.
On va écouter un premier morceau.
Maintenant, là, tout de suite, en live.
En live.
Okay. Him shifts me to the only begetter of these, because of the savor of thy good ointment, all happiness and that eternity, for do the virgins love thee. Promised by our ever-living poet, the king hath brought me into his chambers. When 40 winters for the sun.
C'est un cut-up de Brian Gaisin qui introduit ce premier morceau extrait de l'album Magnétique, Barbara Carlotti, et le premier morceau s'appelle
Radio Mentale Sentimentale. Je suis Barbara Carlotti, nous sommes en studio avec Laurent Tixador et Lionel Sabaté, Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. Oh, crépuscule, dans ma radio mentale, le son et l'image ne correspondent pas. J'entends des voix, tu sais, tu peux faire ce que tu veux de moi. Je vois des choses que personne ne voit. Je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle. Et si je suis folle, je suis folle de ça. Radio mentale, sentimentale. Je ne suis pas folle. Et si je suis je suis folle de toi, radio mentale, sentimentale. Au cœur de la nuit, dans mon extase cristal, le son et l'image se partagent, les voix, je sais, je sens, je vois. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux de moi. Je vois des choses que personne ne me voit. Je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle. Et si je suis folle, je suis folle de ça. Toi, radio mentale, sentimentale. Je connais la trame de l'univers, toutes les architectures célestes, les motifs qui relient les êtres et tous ces feux qui nous animent. Je capte les ondes invisibles. T'inquiète pas, je sais aussi me taire et je peux faire ce que je veux de toi. Je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle, et si je suis folle, je suis folle de toi. Radio mentale, sentimentale. Leroy à la guitare.
C'est différent du projet où on fait appel à un architecte ou à un conducteur travaux qui va vous dire bah, écoutez, est-ce que vous voulez la faire comme ci ou comme ça. Donc voilà, l'implication, c'est pas le même que l'autoconstruction, où l'autoconstruction, eh ben, on se réapproprie. Tout le fonctionnement du chantier, de la maison, tous les choix qu'on a à faire. Ça peut être critiqué parce qu'il y a des maisons qui ne sont pas super parfaites ou je sais pas quoi. Mais n'empêche que c'est des gens motivés, souvent militants, qui ont décidé de se faire leur maison et d'affronter tout ça. Et de fait, de toute façon, ça appelle à de la solidarité, à de l'entraide, quoi.
Moi, ce qui me plaisait beaucoup hein, dans le fait de faire une maison, c'était comprendre ce qu'il y a derrière les murs, parce que c'est bien. Enfin, moi, je suis contente, toi, de savoir, voilà, les circuits électriques, ça passe là, la plomberie, ça marche comme ça, Un mur, on peut le faire comme ça. Enfin, voilà. Et du coup, d'habiter chaque couche de la maison un peu, d'apprendre à servir d'une tronçonneuse, d'une scie circulaire. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est juste, faut pas avoir peur du bruit et puis connaître les règles de sécurité. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi.
Laurent Tixador, c'est quoi l'influence d'un lieu quand vous arrivez, par exemple, devant cette forteresse du XIIIe siècle à Nègrepelisse ?
Alors, d'abord, la toute première influence, ça a été que ce soit un lieu d'exposition. Et moi, quand on me propose une exposition, c'est un petit peu comme si on punissait, comme si on me mettait au coin. En fait, c'est pas du tout ma façon de travailler. Et c'est pour ça que je lui ai proposé immédiatement, après avoir vu ce petit cours d'eau, qu'on allait faire une exposition, parce qu'il a quand même un centre d'art, et que je produirais moi-même l'électricité pour éclairer et faire marcher l'exposition. Et en fait, c'était surtout ça mon intérêt, en fait, de fabriquer la centrale sur place, évidemment. Donc la première chose que je suis allé voir, c'est pas la salle d'expo, enfin bon, voilà, si je l'ai regardé vite fait, mais c'était surtout les réserves, les petits coins cachés, etc., dans lesquels il y a tous les restes des anciennes expositions, tous les matériaux, toutes les choses comme ça. Puis donc j'ai commencé à avoir à peu près une forme d'un bâtiment en tête, en tout cas sa couleur, quoi, à cause de la couleur récurrente des plaques de contreplaqué qui traînaient.
Et vous avez tout fait avec des matériaux récupérés sur place ou que vous aviez déjà collecté ?
On n'a rien collecté, enfin quasiment rien collecté. Il n'y avait pas beaucoup de métaux et puis si il y avait des métaux en fait pour fabriquer la roue à aube. Et puis après il nous fallait pas mal de pièces mécaniques et il nous fallait des courroies, des engrenages, des machins, des trucs comme ça.
Mais vous saviez construire une centrale hydroélectrique ?
Eh ben non, évidemment pas. Alors déjà c'était un choix de faire une centrale hydroélectrique parce que maintenant c'est devenu hyper facile d'installer une éolienne, c'est hyper facile de mettre des panneaux solaires. Et puis là, il y avait ce cours d'eau derrière le centre d'art. Et moi, l'idée de la centrale électrique, en plus, je l'avais derrière l'oreille depuis super longtemps. Et évidemment, jamais l'occasion s'est présentée. Et puis, avec Yvan Poulain, directeur, on a discuté de la possibilité de faire ça. Et puis, on a discuté aussi du fait qu'on n'avait pas le droit de le faire. Donc, c'est encore meilleur. Et puis, il a pris le risque en fait de le faire. Et puis maintenant, je pense qu'elle ne doit plus marcher parce qu'évidemment, on a eu la visite de la police des eaux. Je pense 15 jours après l'ouverture, quoi. Ouais. Mais en tout cas, elle a marché au moins à plein rendement pendant 15 jours, quoi. Ouais. Voilà. Et puis maintenant, je pense qu'elle marche au ralenti. Je sais pas trop. Et puis j'ai pas eu la possibilité d'y retourner.
Parce que vous avez fait un petit barrage.
Alors voilà, en fait, le principe, c'est il y a une petite retenue d'eau. Donc c'est un petit cours d'eau qui doit faire à peu près 1 mètre de large. Donc il y a une retenue d'eau pour faire un dénivelé d'à peu près 1 mètre ou 90 centimètres. Un déversoir qui déverse l'eau donc concentrée avec tout le débit du cours d'eau sur une roue à aube qui est reliée à un alternateur de voiture. L'alternateur de voiture recharge une batterie. Et puis la batterie va vers un convertisseur de 120 volts qui va dans l'expo. Donc on a fabriqué, tout système avec un gros truc en ferraille assez drôle qui tourne bien en fait, qui est assez puissant. Et puis au-dessus du ruisseau, il y a un petit bâtiment qui est perché sur pilotis. Et de là, on a fabriqué 2 ou 3 pylônes électriques. Qui amène l'électricité jusque dans le centre d'art.
Quand on vous demande vos inspirations, Laurent Tixador, pour la fabrication de tous ces objets, ou vous parlez des sculpteurs du Groenland.
Ouais.
Pourquoi ?
Et c'est pas vraiment des inspirations, c'est des envies. Et moi j'ai une formation de sculpture hyper classique. Et voilà, enfin de moulage en plâtre, de trucs, de copies d'antiques et tout ça. Enfin voilà quoi. Et puis au cours d'un voyage au Groenland, j'ai rencontré des sculpteurs. Et puis c'est des gens qui travaillaient avec des objets très ténus, en fait des petites bricoles, un petit bout de bois de renne, une dent de morse, enfin ou une dent de, enfin voilà des, enfin des dents, des petits bouts d'os et des trucs comme ça quoi. Et puis en fait ça a été le point de départ d'un questionnement sur les matières animales et puis sur ce que c'est que la sculpture, parce que les Groenlandais travaillent complètement en collaboration avec leurs matériaux. C'est-à-dire que jamais ils n'effacent l'animal ou le matériau qu'ils ont utilisé. C'est-à-dire qu'une dent de morse sculptée par un Groenlandais, ça restera toujours une dent de morse, avant tout. Et puis, y a cette espèce d'effet inverse du David de Michel-Ange qui sort d'un beau bloc de marbre parfait et dans lequel il a mis tout son talent, toutes ses connaissances, etc. pour faire une sculpture magnifique. Hein. Mais où le bloc de marbre est complètement disparu. Et voilà, c'est vraiment l'effet inverse. Et puis c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas d'atelier en fait, parce que en fait le principe est le même. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir constamment à travailler dans un endroit où je serais le seul maître. J'ai envie qu'il y ait cette collaboration, cet échange avec des matières et des matériaux. Et puis j'en suis même venu après à me poser des questions justement sur ces matières animales là, tout ça quoi. Et maintenant quand je le fais, c'est-à-dire travailler avec des matières animales, c'est uniquement des boîtes cervidées, c'est-à-dire du renne, du cerf, des bois de chevreuil, etc. Parce que c'est un bois qu'on peut utiliser sans que l'animal soit mort, puisqu'ils perdent annuellement leur bois. Et voilà. Donc en fait, par rapport aux matériaux, mais j'aime bien, enfin, même, c'est indispensable pour moi d'être fier des matériaux que j'utilise, quoi.
Et dans les inspirations, il y en a une qui est un petit peu plus ancienne.
Souvent, le gadget est un jouet. Et nous avons cru remarquer que ceux qui font vendre chaque semaine un journal de jeunes sont très souvent d'inspiration scientifique. Aussi avons-nous interrogé les inventeurs de ces amusements éphémères.
Quand vous êtes, je crois, des spécialistes incontestés du gadget, et bien souvent on a l'impression que les thèmes que vous retenez sont des thèmes scientifiques. Est-ce qu'il faut en conclure que le thème scientifique est un thème qui plaît beaucoup aux enfants?
Oui, absolument. Nous nous dirigeons d'ailleurs de plus en plus, et nous avons commencé de l'archerie gadget, qui sont, disons, l'explication concrète de phénomènes naturels, de leçons, qui touchent aussi bien la biologie que la physique.
Ça, par exemple, je crois que le premier gros succès gadget, ça a été justement un succès biologique, c'était la poudre de vie.
Oui, nous avions rêvé depuis longtemps d'avoir une poudre que nous pourrions mettre dans l'eau pour avoir un animal vivant. Enfin, c'était un rêve. Nous avons cherché pendant plus d'une année.
Ce n'est plus un rêve. La poudre merveilleuse existe. Nos détectives du gadget l'ont découverte en Californie. C'est tout simplement la forme déshydratée de ce petit animal appelé Artemia salina. Remis dans l'eau, il retrouve, comme ici, sa forme et manifeste sa vie.
Vous n'avez pas jeté vos pifs gadgets, Laurent Tixador?
Non, évidemment pas. Non, mais j'ai grandi avec ça.
Vous avez eu la poudre de vie et tout
et
ça?
Oui, les pifis. Et puis les poissoteurs aussi, évidemment, quoi, ouais. Je pense que c'est pas faux que ça ait pu m'influencer un petit peu dans ma façon de travailler, quoi. Ouais. Parce que en fait, je renouvelle jamais une pièce. Chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Et il y a cette idée d'expérience aussi qui est très importante, quoi. Ouais.
Et où est-ce que vous avez trouvé cette fusée qui est aussi à Nègrepelisse? Alors, qui date des années 70.
Ouais, donc ça c'est une fusée franco-soviétique, non, une fusée soviétique qui a été tirée dans les îles Kerguelen en 72. Et donc en fait c'est une fusée civile, c'est une fusée de radiosondage qui permettait de mesurer les hautes couches de l'atmosphère. Donc elles ont été tirées sur une ligne qui part de Sibérie jusque l'Antarctique. et qui permettait de dresser une stratigraphie. Et, bon, j'en ai pas. En partant dans une expédition avec un groupe de scientifiques, j'avais vu ces fusées, enfin il y en avait plusieurs, et j'étais assez intéressé. Après j'en ai reparlé avec des gens de la réserve naturelle, ils m'ont dit ouais bon c'est bien, mais on est quand même dans une réserve naturelle, et puis ça nous embête d'avoir des objets comme ça quoi, qui entreprisent la zone. Et puis j'ai un petit peu réfléchi et j'ai demandé au chef de district si c'était possible d'en récupérer au moins une, de l'enlever et puis donc la ramener en métropole un petit peu comme un souvenir de voyage. Et puis il se trouve que en plus cette fusée a une histoire hyper intéressante quoi, avec rien que par le fait que ce soit une fusée soviétique tirée sur le territoire français sous De Gaulle en pleine guerre froide, que ce soit un objet comme ça assez spécial et qui soit là perdu en subantarctique et invisible, je me suis dit bon bah c'est intéressant de ramener et d'en faire un objet qu'on regarde dans des expositions, et en fait sa place est mieux dans une exposition que à polluer une réserve naturelle. Donc je me suis dit bon voilà, j'en prends une. Donc elle vient des îles Kerguelen.
Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht rot. Sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittelosten, Nicaragua, will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost. Auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben. Auf Raketen muss Rost. Wer will die Säcke im Osten reizen?
Est-ce que vous connaissiez ce morceau, Laurent Tixador?
Non, je ne connais pas. Mais...
1982, c'est Joseph Beuys qui chante « Nous voulons le soleil, que vos fusées rouillent, la peste, c'est la guerre froide, dégage avec ta stratégie militaire, Reagan, tes pluies acides, prends tes fusées, rentre chez toi, on préfère vivre sans armes. » Et Joseph Beuys, c'est aussi celui qui avait planté en 82 aussi, je crois,
oui,
7000
là,
chaînes.
Ouais. Ouais.
Pour justement penser les plaies de la nature.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ça fait penser à la forêt ou aux arbres qui revivent, dont vous parliez tout à l'heure, Lionel Sabaté, les oliviers.
Oui, alors les miens restent morts, enfin ça dépend quelle est la définition de la mort et de la vie, mais alors que les siens étaient quand même vivants, moi c'est plus une réflexion justement aussi sur ce qu'on considère comme mort ou comme vivant. Parce que ça, on a plutôt une vision biologique de la chose, mais ça peut être étendu.
Mais Laurent Tixador vous a dit que
oui,
tout
oui,
était
oui, c'était
vivant.
Très juste ce qu'il disait.
En tout cas,
je suis tout à fait d'accord en fait avec ce qu'il dit, puisque ma demeure est restée avec des matériaux pas morts, mais pour moi, elle est vivante et je comprends tout à fait ta réaction en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec l'extension du domaine de la vie peut-être.
Bah, alors Joseph Beuys chante « Nous voulons le soleil », on va peut-être se rapprocher des étoiles. Barbara Carlotti avec un dernier morceau avant minuit.
Oui, bah c'est justement ce morceau dont j'ai composé le refrain en rêve. J'y vais tout de suite aussi.
Parfait, ouais.
Sans peur dans la dead zone, de toute la peur tenir aux choses, à marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent, le doute est un collier d'épines, je reste pour percer les nids. L'énergie sismique qui nous guide déclenche parfois de longs soupirs. J'ai toujours aimé danser sur les chemins de traverse, le temps est mon allié. Il n'y a rien que je regrette, une seule crainte peut-être, à force de temps plané, c'est un jour ou l'autre de voir les étoiles tomber. Toujours je tremble face à l'éclipse, la lumière est mon meilleur guide. Self-contrôler, pas de côté, il faut être bien accompagné. Toute chance n'est pas bonne à saisir, la peur de vie de ses habits. Jardin de l'ivresse, le temps est mon allié. Il n'y a rien que je regrette, une seule crainte peut-être, à force de temps plané, c'est un jour ou l'autre de voir les étoiles. J'ai toujours aimé danser sur les chemins de traverse, le temps est mon allié. Il n'y a rien que l'on regrette, une seule crainte peut-être, à force de temps parié, c'est un jour ou l'autre de voir les étoiles tomber.
Est-ce qu'il y aura d'autres demeures, Lionel Sabaté ?
Oh oui, je l'espère. Oui. J'aurais très envie de faire une demeure qui me prenne plus de temps à construire. J'aimerais beaucoup, un peu comme le facteur cheval, en fait, avoir le temps de construire une sorte de palais, en fait, qui serait la suite de la demeure. J'aimerais beaucoup, aussi beaucoup faire des ponts, des passerelles, des choses comme ça. Et puis des murs qui seraient des prétextes à faire des portes, en fait. Donc voilà, ça m'a initié plein d'envies comme ça, de ce type. Mais il y aura d'autres demeures, je l'espère.
En tout cas, on vous offre une planche, un peu de poussière.
C'est très gentil. C'est des trésors.
À partir de la dimension humaine à retrouver, du réel à transformer pour repartir de zéro et être capable de construire sa maison, Laurent Tixador, la centrale, c'est jusqu'au 20 mai à la cuisine, à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne. Lionel Sabaté, sa demeure est dans le patio de la Maison Rouge à Paris et c'est jusqu'au 20 mai. Barbara Carlotti, le nouvel album s'appelle Magnétique, elle sera en concert le 4 décembre à la Gaîté Lyrique à Paris et avant ça le 4 mai à Saint-Jean-de-Veda. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique. Merci à Jean-Michel Bernaud, Julie Garraud et Laurent Binder. Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain et c'est l'heure des nuits.